Les par actualités. Bonjour à vous toutes et vous tous, Clotilde Saillé au micro de Canal M pour vous présenter ces paractualités en ce 14 novembre 2016. Les titres du jour, le logis des Zoniers à Saint-Lambert, un concept locatif exceptionnel pour les personnes handicapées. Lettre ouverte au Québec de la Société canadienne de la sclérose en plaques. Un succès pour la deuxième édition du Salon des proches aidants et des aînés de la Mauricie, la fête de Noël de la Fondation Tanguay, l'altruisme pris d'assaut par la logique marchande et Airbus qui lance son premier hackathon axé sur le handicap. Et puis deux entrevues encore aujourd'hui, Frédéric Charpentier, premier porte-parole de la Fondation des aveugles du Québec et de la Fondation Le Bon Pilote, et puis Locke Corrie, coordonnateur du regroupement québécois du Parrainage civique. Alors, Richard Saunier affiche un optimisme inébranlable. D'ici quelques semaines, quelques mois tout au plus, la ville de Saint-Lambert devrait lui donner le feu vert pour mener à terme son projet qu'il porte à bout de bras depuis 7 ans. Au début, quand il sillonnait la ville en quadriporteur à la recherche d'un terrain ou d'un immeuble susceptible d'accueillir des personnes à mobilité réduite, il était le seul à y croire. Mais petit à petit, on commence à s'intéresser à cet intellectuel à roulette autoproclamé et à ses arguments convaincants. D'autant plus que dans intervalle, il a fondé un organisme sans but lucratif, le Logis des Zoniers, composé de Lambertois bien en vue, dirigeants d'entreprises, universitaires, responsables d'organismes communautaires. Dans une autre vie, Richard Saunier était directeur des communications à Vélo-Québec et pédalait allègrement des milliers de kilomètres chaque année. Sa famille et lui avaient la passion des voyages et du plein air. Mais en 2002, le verdict tombe, il est atteint de sclérose en plaques, d'un type qui progresse lentement mais sûrement. Avec ses 25 logements d'une ou plusieurs chambres, sa grande salle commune et une intégration des équipements uniques en son genre, l'immeuble lumineux qu'il a dessiné offre de hautes performances énergétiques. Et il faut l'admettre, il est splendide. Logis des Zoniers va gagner des prix, a dit l'architecte avec force. L'architecte en question, c'est Yves Dagenais. À l'intérieur, avec le concours du groupe CDH, tout a été conçu en fonction des besoins des occupants. Partout, les couloirs présentent un dégagement de 1,50 m, 5 pieds de diamètre, et les équipements sont pensés de manière à permettre aux usagers de se lever, de se laver, de cuisiner, de se vêtir et d'accomplir toutes sortes de tâches ménagères de la façon la plus simple possible. On a même pensé, figurez-vous, au sous-sol, à mettre un local réservé aux quadriporteurs avec une salle des machines pour recharger les batteries et un compresseur électrique pour gonfler les pneus. Et l'idée là-dedans, et ça c'est le plus beau, c'est de proposer des loyers accessibles pour un 4 pièces. Par exemple, le loyer sera d'environ 650 $ par mois, précise Richard Saunier. Voici maintenant une lettre ouverte au Québec de la Société canadienne de la sclérose en plaques, division du Québec. Les proches aidants peuvent consacrer jusqu'à une vingtaine d'heures par semaine à une personne souffrant d'une maladie neurologique évolutive. 28% d'entre eux sont en détresse, le double de la proportion des aidants qui s'occupent d'une personne atteinte d'un autre type de maladie. Est-ce acceptable? Non. Mais y a-t-il des solutions? Partenaire Neuromaladie Neurologique Évolutive en est convaincu. Ce regroupement de 5 organismes, Dystrophie Musculaire Canada, la Fédération québécoise des sociétés Alzheimer, Parkinson Québec, la Société canadienne de la sclérose en plaques division du Québec et la Société de la sclérose latérale amyotrophique du Québec est la voix des quelques 200 000 personnes au Québec atteintes de l'une ou l'autre de ces maladies. Le 9 novembre, notre regroupement a rencontré plusieurs députés de l'Assemblée nationale pour leur exposer des pistes de solutions et déposer un mémoire intitulé « Agir pour améliorer la qualité de vie des personnes atteintes d'une maladie neurologique évolutive ». Nous proposons la mise sur pied d'un réseau d'hébergement qui répondrait mieux aux besoins des personnes atteintes d'une maladie neurologique évolutive. Nous soulignons l'importance de l'accès aux médicaments novateurs et suggérons des manières d'accroître le soutien aux proches aidants. Nous pressons également les élus de mettre rapidement en œuvre les recommandations incluses dans le rapport de la Commission sur les conditions de vie des adultes hébergés en CHSLD, qui est paru en juin 2016. Nous proposons un ensemble de mesures qui permettraient à plus de 200 000 Québécoises et Québécois de vivre enfin dans la dignité. Il est plus que temps d'agir. Il est animateur, il est conférencier, il est acteur et il est aussi le premier porte-parole, non pas d'une, mais de deux fondations, la Fondation des aveugles du Québec et la Fondation Le Bon Pilote. Frédéric Charpentier, bonjour.
Bien le bonjour, bonjour.
j'ai une petite question avec un gros clin d'œil au bout. Et la question est-ce que vous leur coûtiez trop cher pour que deux fondations aient décidé de s'associer pour vous avoir comme porte-parole?
Vraiment, est-ce que ça va avec la grandeur? Je fais 6 pieds 7, non.
Vous faites 6 pieds 7, Frédéric?
Oui, je fais 6 pieds 7, donc 2 mètres 2 pour les gens qui sont habitués avec l'autre système. Mais écoutez, ça a été pour moi vraiment une belle nouvelle, ça, que d'apprendre. Mm-hmm. Oui, ils ont décidé de... Ces deux fondations-là ont décidé... de se joindre, finalement, de s'unir cette année.
C'est ça.
Et c'est une question d'unir leurs ressources humaines, financières, etc. On connaît les moyens des fondations aujourd'hui. C'est une initiative qui est vraiment une belle initiative qu'on voit pas souvent dans le monde des fondations.
C'est
et
vrai.
Ça va permettre vraiment, l'objectif est d'en donner plus aux bénéficiaires et aux donateurs également.
Et vous avez accepté spontanément?
Spontanément. Moi, je vous dis, ma motivation, en fait, j'ai appris à connaître la Fondation des aveugles du Québec à travers une activité qu'ils organisent qui s'intitule « La course aveugle extrême ».
Oui. Et,
moi, je suis un passionné d'automobile. J'ai travaillé comme chroniqueur automobile pendant des années. Et donc, il y a quelques années, j'ai participé à cette activité-là comme copilote.
Oui.
Et le concept, ce sont des personnalités qui viennent du milieu des affaires, de la politique ou du domaine artistique, qui sont des copilotes et qui donnent des consignes aux pilotes qui, eux, sont malvoyants. Et donc, là, c'est une vraie course. Et là, il y a une trentaine de véhicules comme ça qui se heurtent. Et l'objectif, c'est de terminer la course. Et ça donne vraiment un très beau spectacle aux gens qui assistent. Et c'est un beau spectacle. Mais pour ceux qui sont dans l'auto, il fait chaud, là.
Oui, ça doit, hein? Oui, j'ose même pas l'imaginer.
Oui, donc c'est la 5e édition d'ailleurs de cette activité-là de financement pour la Fondation des aveugles du Québec aura lieu à l'Autodrome Saint-Eustache le 30 avril prochain. Donc j'invite tout le monde à y être présent. Ça fait un très beau spectacle et c'est une belle activité de financement.
Quand, il y en aura d'autres, hein?
Il y en aura d'autres, effectivement. Je ne vis pas personnellement avec une déficience visuelle et je n'ai pas dans mon entourage non plus des personnes qui sont non-voyantes.
Saviez que j'allais vous demander ça ou...
Ben, vous me demandez la motivation.
Oui.
Vous me demandez ma motivation. Souvent, on approche des porte-paroles qui sont concernées directement et, parce qu'ils vivent la problématique en question. Et ce qui fait le charme de cette, de ce choix-là, c'est que justement, moi, je représente celui ou celle dans la population qui ne vit pas avec une personne et qui ne comprend peut-être pas l'ampleur de la problématique. Et j'ai donc appris, en participant à des activités avec des personnes malvoyantes et tout ça, en m'investissant, ce que c'était. Et ce que j'ai appris, moi, c'est que, comme voyant, ben justement, on voit pas grand-chose.
Oui.
Ça nous ramène à l'essentiel. Il suffit de passer quelques heures avec une personne qui vit cette problématique-là pour se rendre compte que ça nous ramène à des vraies valeurs.
Oui.
Quand on voit cette détermination-là, à chaque jour de se buter à des défis...
Dans tous les sens du terme.
Dans tous les sens du terme, vous avez bien raison. Ça nous ramène, OK, là, je comprends. Je comprends la chance que j'ai, puis comment, moi, je peux aider ces gens-là à se surpasser. Puis ça nous ramène à des valeurs plus essentielles, c'est vers le cœur aussi, vers la générosité. Moi, j'ai vraiment du plaisir, et c'est ce que j'apprends en côtoyant ces gens-là. Puis c'est pour ça que j'ai dit oui. J'ai dit oui, moi, ça va me faire plaisir d'être votre porte-parole, puis de dire qu'on a beaucoup à apprendre de vous.
Et ces deux fondations vont célébrer chacune un anniversaire. Ce sont les 25 ans de la Fondation des aveugles et les 40 ans du Bon Pilote.
Exactement.
Il va y avoir quelques nouveautés pour marquer ces anniversaires-là?
Oui, il y a des nouveautés. En fait, ils profitent de cette nouvelle union-là entre les fondations pour avoir une nouvelle image, un nouveau logo, un nouveau site Internet. Et il y aura également une campagne de socio-financement qui va démarrer au début de l'année 2017.
OK.
Et c'est nouveau, hein, parce qu'on a décidé d'approcher la jeune génération. Évidemment que les deux fondations ont deux clientèles complémentaires. La Fondation des aveugles du Québec, s'occupe de logements, ont 76 logements à s'occuper, et participe davantage aussi à briser l'isolement chez les jeunes en leur offrant des activités, plus d'une cinquantaine d'activités par année pour les 6 à 25 ans. On parle de parapente, on parle de rafting, de ski alpin, donc des activités vraiment extraordinaires. En ce qui concerne la Fondation Le Bon Pilote, eux, leur mission, c'est vraiment d'accompagner les gens au quotidien et de les accompagner, par exemple, dans des rendez-vous chez le médecin, courses au quotidien. Les gens qui vivent seuls ont besoin de beaucoup d'aide au quotidien et c'est ça leur mission. Ils participent à 3800 déplacements par année.
C'est incroyable.
Oui, c'est vraiment incroyable. C'est deux fondations qui ont vraiment leur raison d'être.
Frédéric, l'heure tourne et je voudrais à tout prix que nous nous tournions vers le théâtre Saint-Denis parce qu'il va y avoir le gala Humour aveugle de la Fondation des aveugles du Québec. C'est en fin de semaine, là?
Oui, donc prochain week-end, les 19 et 20 novembre prochains au théâtre Saint-Denis.
J'allais faire un sketch?
Oui, je vais faire le numéro d'ouverture en compagnie du directeur général de la Fondation des aveugles, Ronald de Beauregard. Et je suis très heureux de ça. Ce sera une première pour moi sur la scène du Saint-Denis. Il y aura 10 humoristes qui vont faire le spectacle. C'est la 28e édition. On fait salle comble à chaque édition. Et là, j'ai une bonne nouvelle. Il reste de très bons billets pour le dimanche, le 20 novembre.
C'est vrai?
Oui. Si ça vous intéresse, on va sur humouraveugle.ca pour aller chercher des billets.
Humouraveugle.ca.
Oui, exactement.
D'accord. Parce que là, je note. Parce que je dois dire que moi, j'aimerais ça, moi. Une petite sortie comme celle dimanche, j'aime ça.
Bien, certainement. Moi, je vais vous inviter. J'invite vos auditeurs également à être présents. Ça va vraiment être une superbe édition. Puis, pour aider les fondations ou avoir plus d'informations, si vous permettez, je vais vous mentionner les sites Internet en question. Donc, fondationdesaveugles.org. Mm-hmm. Fondation des aveugles, donc oui. La fondation lebonpilote.org pour la fondation qui accompagne les gens dans leur quotidien.
Eh bien, vous faites drôlement bien votre rôle de porte-parole, Frédéric Charpentier, vous n'êtes pas seulement grand par la taille, mais grand par le cœur aussi, mon ami. Merci beaucoup.
Merci à vous qui nous permettez de vraiment d'avoir un impact direct sur la vie des personnes malvoyantes au Québec. Merci.
C'est très gentil, Frédéric, et c'est notre rôle. Merci beaucoup. Au revoir.
Au revoir.
Par actualité régionale, Grégory Charles était de passage à Trois-Rivières ce dimanche, mais pas pour présenter un spectacle, mais bien pour offrir une conférence dans le cadre de la deuxième édition du Salon des aidants et des aînés de la Mauricie. Grégory Charles est donc venu entretenir le public sur son expérience de proche aidant dans une conférence intitulée « Jusqu'au bout ». Bien qu'on soit habitué de le voir chanter ou jouer d'un instrument, c'est un homme sans artifice qui s'est présenté dans la salle de l'hôtel Delta de Trois-Rivières. Il a commencé par ces simples mots « Bonjour à tous, je m'appelle Grégory Charles et je suis un aidant ». Il se souvient de l'impression de solitude qu'il a habité dès le début lorsqu'il a appris il y a 14 ans que sa maman était atteinte d'Alzheimer. Et il a déclaré, entre autres, que le plus gros combat qu'il avait eu à mener, c'était pas le combat avec sa mère, mais bien avec son père, parce que ce dernier voulait être là jusqu'à la fin. Et malheureusement, il a fallu placer la maman, même s'ils sont encore très, très présents. Le papa de Grégory aurait donc tellement préféré pouvoir la garder, jusqu'au bout à la maison. En ce qui concerne la deuxième édition du Salon des aidants et des aînés de la Mauricie, ça aura attiré plus de 1000 personnes. C'est donc un succès. Une soixantaine de kiosques tenus par des entreprises et des organismes locaux couvrant une panoplie de services diversifiés et 6 ateliers ont permis aux visiteurs de s'informer et de s'outiller sur certaines thématiques portant sur le soutien à domicile. Le but est d'outiller les proches aidants, leur donner une tape dans le dos, les encourager, etc. Les proches aidants recherchent souvent des outils et ne sont pas toujours au courant de ce qui existe comme service, soutient Florence Poquet, directrice générale de l'Appui Mauricie. Il est fréquent de voir des aidants naturels qui s'épuisent alors qu'avoir été outillés avant, ils ne se seraient pas rendus au bout du rouleau. Et puis rapidement, ce dimanche dernier, les sourires étaient nombreux aux galeries de la capitale à l'occasion de la fête de Noël de la Fondation Tanguay qui, encore une fois, a permis cette année à plus de 600 familles de prendre un moment de répit pour s'amuser et se laisser aller. Les tracas du quotidien semblaient bien loin pour les parents d'enfants handicapés reçus par la Fondation Maurice Tanguay. La journée devenait en quelque sorte un temps d'arrêt qui était le bienvenu pour plusieurs. Je m'entretiens maintenant avec le coordonnateur du regroupement québécois du parrainage civique et nous allons en apprendre un petit peu plus avec lui. C'est Locke Corry.
Oui, bonjour.
Bonjour, vous allez bien?
Oui, ça va. Bah non, ça va pas très bien, c'est lundi, mais ça va quand même.
Non, nous, ça va, le lundi.
Ça va le lundi, vous?
Ouais, oui.
Je préfère quand même le mardi,
c'est
le vendredi.
C'est le dimanche soir, quel plus dur. Mais...
Oui, le dimanche soir, c'est très dur aussi.
Allez, revenons, s'il vous plaît, très sérieusement à ce regroupement québécois du parrainage civique dont vous êtes le coordonnateur. Qu'est-ce que c'est exactement?
Ah. Bon, on s'était déjà entretenu avec vous il y a un peu plus d'un mois, mais donc le regroupement québécois du parrainage.
Mais je pense, vous savez, je pense parfois aux gens qui n'étaient peut-être pas là il y a un mois.
Vous avez bien raison. Mais donc le regroupement donc regroupe tous les organismes de parrainage civique au Québec.
Voilà.
Donc il y en a une vingtaine où on fait donc du parrainage civique. Qu'est-ce que le parrainage civique, hein, c'est une bonne question, mais en fait c'est un jumelage entre une personne vivant avec une déficience intellectuelle ou un problème de santé mentale avec un bénévole. Donc avec notre expertise, on tente de les jumeler. Et au niveau du regroupement, donc nous, on soutient, on forme et on représente tous ces organismes de parrainage civique au Québec.
Quel genre de service offrez-vous?
Dernièrement, rien que la semaine passée, on a offert donc une formation pour les directeurs, mais également pour les intervenants, voire les bénévoles s'ils veulent venir pour se performer, s'améliorer dans leur pratique, échanger entre eux, parce qu'évidemment, tous les cas sont différents et la réalité qu'il y a à Montréal est différente de celle en région.
Oui, bien sûr.
Donc, évidemment, ce qu'ils cherchent avant tout, c'est vraiment améliorer leur recrutement de bénévoles,
oui.
Qui est vraiment la chose la plus délicate au niveau des intervenants. Et au niveau des directeurs, c'est tout ce qui est gestion, gestion des RH, financière, leadership, etc.
Oui.
Donc pour vraiment entraîner le maximum de personnes dans leur région.
Je m'attends un peu au type de réponse que vous allez me faire, mais voudriez-vous nous donner quelques exemples de problèmes d'accessibilité universelle rencontrés par cette clientèle-là?
Ah oui, donc c'est ça, parce qu'on voulait parler des capsules vidéo qu'on a faites à l'occasion de la Semaine québécoise des personnes handicapées.
Mais c'est vers là que j'arrive, effectivement.
C'est vrai qu'au niveau de notre clientèle, donc qui est principalement en DI, malheureusement, certains cumulent des problèmes de mobilité. Évidemment, il y en a qui sont en fauteuil et d'autres qui utilisent donc pas mal le transport adapté.
Ok, bon, alors ces capsules
porte sur le transport adapté et les différents règlements que le transport adapté impose donc à nos usagers, dont notamment donc le port du seul sac dans le transport adapté, ou également donc le manque de flexibilité, c'est-à-dire qu'il faut réserver sa place dans le transport adapté 24 heures à l'avance. Donc nous, on avait fait un vox pop si on le transposait tout ça à nos déplacements, à vous et à moi, c'est-à-dire que genre on ressort de notre épicerie, eh bien non, vous n'avez droit qu'à un sac qui peut être uniquement mis sur vos genoux.
Imaginez.
Voilà, donc tout le monde n'a pas de voiture, donc évidemment dans nos usagers, tout le monde n'a pas de voiture, ou tout le monde ne peut pas forcément se déplacer en voiture, ou ce manque de flexibilité donc qui empêche un peu, enfin voire même beaucoup, à l'intégration sociale.
Bien sûr.
Tout simplement se dire, par exemple, moi aujourd'hui, je décide avec vous, Clotilde, d'aller souper. Malheureusement, je n'ai pas réservé de ma place dans le transport 24 heures à l'avance. Eh bien non, on ne pourra pas souper ensemble, ce qui est dommage pour vous surtout, mais également pour moi.
J'adore votre humour, Locke, mais c'est vrai ce que vous dites. Vous savez que nous, c'est la même chose, par exemple, pour nos invités. Lorsqu'on veut avoir un invité sur place qui nécessite un transport adapté, y a des fois où on est obligé de s'en passer parce qu'on ne l'a pas prévenu, on ne l'a pas prévu assez tôt. On connaît ça, effectivement.
Donc, évidemment, il y a tout un tas de problématiques autre que cela lié au transport adapté, mais au niveau des règlements généraux, c'est ce qu'on avait remarqué avec l'ORAPLI, qui est un organisme en accessibilité universelle.
Bien sûr, avec Linda Gauthier qu'on
avec
connaît
Linda,
bien.
Avec Linda Gauthier, voilà. Donc les capsules, nous on avait sondé en fait tous les membres du ORAPLI et également nos membres pour savoir quelles difficultés ils vivaient avec le transport adapté. Donc évidemment, il y a tout le transport en commun que certains peuvent prendre, mais les mots qui étaient ressortis, c'était le terme de peur. Qu'ils avaient de prendre certains transports en commun, au niveau également des rampes d'accès qui ne sont pas tout le temps sorties. Puis là, l'hiver va arriver, ça va être un corpus, donc il va y avoir une forme d'isolement qui va être vécue au niveau de ces usagers. Et donc, au niveau de l'intégration, c'est pas forcément évident.
Non, c'est clair. Et les capsules vidéo, on peut les voir sur YouTube ?
Sur YouTube, oui. Donc, sur notre page RQPC. YouTube, vous tapez RQPC sur la barre Google, YouTube.
Okay. Vous parlez
sur
vite.
Notre site internet.
Loc. Vous parlez vite. Je me mets à la place de nos auditeurs. Alors, donc, vous me dites, il suffit de faire RQPC.
Sur YouTube, oui.
Voilà, pour Regroupement québécois du parrainage civique.
Vous pouvez également aller sur notre site, parrainagecivique.com.
Parfait.
Également sur notre Facebook, où il y a les capsules sont également diffusées. Donc, on vous invite à aller à grand nombre faire des clics sur notre page pour connaître un peu la mission du parrainage civique, mais également sur les divers dossiers en accessibilité universelle sur lesquels le RQPC prône certaines valeurs d'intégration.
Bien sûr. Mais écoutez, je vous remercie beaucoup. Je vous retrouverai avec un grand plaisir, Loc Cory, dans quelques semaines. Vous savez qu'on est toujours très, très content de pouvoir parler avec vous des nouveautés, de ce qui surgit de ce regroupement québécois du parrainage civique.
Merci à vous, en tout cas, pour l'invitation à chaque fois.
Ben, ça nous fait plaisir.
Merci.
Bonne journée, Loc.
Au revoir.
Au revoir. Par actualité nationale et internationale, parlons d'altruisme. C'est sorti dans Le Temps, dans le journal Le Temps. Selon des études récentes, l'altruisme ferait vivre plus vieux, rendrait plus heureux et même plus désirable. Grâce à de nouvelles plateformes, on peut même le rendre plus efficace. Alors l'altruisme consiste-t-il toujours à penser aux autres ou d'abord à soi? Sur le web, les élans de générosité spontanée sont massifs au point que les applications offrent de nouvelles fonctionnalités solidaires. Airbnb, par exemple, a lancé un plan d'hébergement d'urgence qui permet d'offrir gratuitement un logement après une catastrophe, tandis que la plateforme YouMade se consacre au financement participatif de personnes en difficulté. Si le concept d'altruisme est une invention récente développée par le philosophe Auguste Comte au 19e siècle, il ne s'est jamais autant illustré. Même la consommation se targue de faire le bien, avec la nouvelle promesse du « do gooding ». Peugeot, par exemple, plante des arbres en Amazonie. Visa reverse une partie du montant de vos achats à WWF. La chaîne Starbucks vous suggère d'offrir un café à votre voisin dans la file d'attente, etc. En anthropologie, le don désintéressé n'existe pas. Derrière tout geste, il y a l'appât du don, le désir de créer une relation sociale ou d'obtenir une reconnaissance, rappelle François Gauthier, professeur associé de sciences des religions à l'Université de Fribourg. Mais ce langage coût-bénéfice est une réintégration du don dans une logique marchande. On ne crée plus du lien, seulement de la rentabilité. Alors, qu'est-ce qu'on fait avec un dollar? Même les ONG qui fonctionnaient sur un rapport de confiance doivent de plus en plus répondre à cette question. Une question qui obsède aussi le philanthrope milliardaire. À la naissance de sa fille, fin 2015, nous dit-on dans ce papier, Mark Zuckerberg, le patron de Facebook, 56 milliards de dollars de fortune personnelle, annonçait réserver 99% de ses actions à sa fondation, la CZI, pour promouvoir l'éducation, l'égalité des chances et la recherche médicale. Il vient d'ailleurs d'offrir 3 milliards de son colossal bas de laine pour éradiquer toutes les maladies affligeant l'humanité d'ici la fin de ce siècle. Hélas, certains s'étonnent que ce jeune démiurge minimise aussi ses obligations fiscales qui permettraient pourtant de financer des écoles et des hôpitaux dans de nombreux pays. Dans l'altruisme efficace, on préfère se concentrer sur la fin des maladies plutôt que les soins aux malades. une très jolie initiative d'Airbus Group qui a décidé de créer un événement européen pour inciter des profils variés à développer ensemble des solutions destinées aux personnes en situation de handicap. Lancé pour la première fois par Airbus, le Fabricarium, un hackathon interne en fait, a réuni pendant 3 jours à Toulouse une quarantaine de collaborateurs du groupe ainsi que des étudiants et des spécialistes du prototypage pour développer un ensemble de solutions innovantes d'aide au handicap. Alors, ils ont développé, conçu et fabriqué plusieurs prototypes au service du handicap, comme par exemple la création d'une prothèse esthétique pour personnaliser une jambe, ou encore un fauteuil roulant construit avec des pièces détachées standardisées, réplicables dans les produits dans les pays en voie de développement et disponibles en version électrique. Une aide auditive à bas coût pour les personnes qui n'entendent pas d'une oreille. Un système de radar portatif pour les personnes aveugles ou déficientes visuelles pouvant être fabriqué pour moins de 50 euros. Une prothèse de main bionique d'un coût abordable que l'on peut réparer soi-même, contrôlée par des capteurs musculaires et équipée d'un système permettant de sentir les objets. Également la création d'une prothèse de main transformable en une œuvre d'art, en papier imprimé en 3D ou en outil, grâce à un système de fixation au poignet amovible. Et puis, comment transformer toute imprimante 3D en machine écrivant du braille en tapant sur des feuilles standards, papier, carton, etc. C'est quand même très, très imaginatif et très inventif. Et je vous rappelle que c'est Airbus qui a eu la bonne idée de mettre de l'avant cette initiative. En rafale maintenant, je vous rappelle que la pièce Traversée, présentée en français et en langue des signes au MAI, M-A-I, sur la rue Jeanne-Mance à Montréal, on peut encore voir cette pièce jusqu'au 30 novembre, me semble-t-il. Écoutez, j'ai eu l'occasion de voir cette pièce hier et l'occasion de faire connaissance avec deux comédiennes absolument exceptionnelles qui manient le verbe et la gestuelle avec une émotion rare. C'est une pièce à voir et à revoir. Également, Le Peuple de l'œil, 160 ans d'histoire de la communauté sourde, s'est présenté jusqu'au 5 février 2017 à l'Écomusée du Fiers-Monde sur la rue Amherst à Montréal. Une expo quadrilingue présentée en langue des signes québécoise, américaine, anglaise et française de France. Et un dernier rappel aujourd'hui, le RAM invite ses membres à participer à une session de formation sur le thème de la revendication à la mobilisation, s'organiser pour gagner. Quand ? Eh bien, le lundi 21 novembre de 9h à 16h, le coût, $5. Apportez votre lunch ou sinon il sera également possible de commander sur place. Il faut réserver auprès de Mélanie Vanel au 514-277-4401, 514-277-4401. Voilà ce qui conclut l'émission Les Parts Actualités du jour. Merci beaucoup à vous toutes et vous tous d'avoir été là. Merci à mon équipe, Anne-Laure Janson et Jean-Sébastien Laliberté. Nous sommes le 14 novembre 2016. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous retrouve demain le 15 à partir de 11h30. Au revoir.